Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avant de laisser la parole à mon ami Jean-François Coulon, qui va vous présenter un personnage un peu moins connu de cette épopée napoléonienne, je vous propose, après cette très belle présentation du maréchal Lannes, d'avoir, comme c'est souvent le cas dans les très bons films, le méchant qu'on aime détester. Bernadotte, puisque c'est de lui dont il s'agit, n'est pas le personnage peut-être qu'on a toujours un peu caricaturé également, et au-delà du personnage un peu falot parfois, mais avec plein de courage quand même tout au long de l'épopée, il me revient donc d'évoquer ce caractère très ambivalent, car pensons-en, pensons à ce personnage. Réfléchissons un petit peu. Il a été de toutes les campagnes, quasiment, puisque ensuite il prendra le parti de s'installer en Suède. Il est surtout celui qui a épousé l'ancienne fiancée de Napoléon. Ça n'est pas rien. Comme disait un personnage, nous avons servi dans le même corps. Napoléon n'aurait pas osé une telle incartade, mais Bernadotte, en Gascon qu'il était, né à Pau, avait ce caractère un peu provocateur qui peut-être a un peu interrogé, si ce n'est déçu, Napoléon à différentes reprises. Le 11 mai 1818, au moment où les domestiques de Charles XIV, Jean de Suède, habillent le monarque pour la cérémonie inaugurale du régime, quelle n'est leur surprise de lire sur le biceps droit du futur couronné « Mort au tyran ». Réalité, simple affabulation. En réalité, ce vieux tatouage qu'il avait essayé de masquer, puisqu'il allait devenir empereur quasiment, puisqu'il était roi de trois royaumes, nous allons le voir, eh bien ce vieux tatouage était un souvenir improbable d'un serment républicain qui avait été prononcé à Toul un 21 janvier 1797. Vous aurez entendu 21 janvier. 21 janvier. Et comme c'était la mort de Louis XVI, cet ancien maréchal de Napoléon, devenu roi de Suède, et que rien de prédisposé à devenir dans une telle épopée, cherchait peut-être à montrer aussi que son histoire était formatrice. Il est né, je vous le disais, à Pau, le 26 janvier 1763. Son prénom, Jean-Baptiste Jules, qui explique qu'il soit devenu Charles XIV Jean, et que ce prénom Jean, il y tenait. Il est d'ailleurs surnommé Titou dans son enfance. Ce qui est intéressant, c'est surtout sa première affectation. Et oui, mesdames et messieurs, le futur roi de Suède a servi ici, à Sartène. Il est ici, en ces murs, et même dans ces lieux que nous connaissons si bien, sur la place de l'Église, où il sert dans l'ancien bâtiment de la gendarmerie et où il est affecté avec l'ensemble de son régiment pour s'occuper de la région. Qui se soucie de Bernadotte ici? Personne. C'est aussi pour cette raison que je voulais vous en parler. Ce personnage qui a une telle destinée, et on parlera aussi de son épouse, Désirée, ce tel personnage mérite peut-être que certaines s'y intéressent d'un peu plus près. Et une plaque ou un souvenir peut-être intéresserait nos amis qui aujourd'hui sont sur le trône suédois. Donc peut-être envoyer une petite missive à Stockholm serait intéressant. Mais rappelons ensuite le reste de l'épopée. Il sert ensuite, ce qui est plus intéressant, en Inde, à Pondichéry, Chandernagore, et revient ensuite, à partir de 1788, à Grenoble, où il est de la première épopée de la Révolution. Il sert au moment de la journée des Tuiles de Grenoble, et il sauve la vie, d'ailleurs, entre autres, au duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant général du roi. Et Michelet, d'ailleurs, dans son Histoire de France, raconte « Le peuple, au premier rang les femmes, regardait fort de travers les soldats de Royal Marine, insolent et provoquant autant que le noble corps de la marine elle-même. Mais celui qui était en tête, un sous-officier béarnais à grand nez, crochu d'épervier, oiseau de proie, oiseau de nuit, œil noir de ténèbres et de ruse, blessa au premier regard leur rude instinct de loyauté. Une des femmes n'y tint pas. Elle traverse la rue, va à lui, et devant sa troupe, lui applique un hardi soufflet. Le coup lui valut le salut de la sortière. « Toi, tu seras roi !» Imaginez son étonnement. La révolution n'a pas commencé. On le retrouve donc en avril 1789 à Marseille, où il se distingue en sauvant cette fois la vie du marquis-colonel d'Ambert. Il repousse la foule déchaînée en hurlant « Citoyens de Marseille, vous ne pouvez vous souiller par un assassinat. Si le colonel Amalagiste est à la justice d'en juger, si vous voulez faire justice vous-même, je vous avertis que vous aurez à passer sur mon corps et sur ceux des braves qui m'entourent. » Et c'est là qu'il fait l'admiration d'une jeune fille qui n'a pas encore connu Bonaparte, mais qui un jour sera son épouse, Désirée Clary. Bonaparte, eh bien la rencontre, et ça s'explique ensuite, pourquoi les deux hommes vont se fâcher définitivement, la rencontre se passe très mal. Elle se fait en Italie en 1797, nous sommes à Mantoue le 3 mars, et le jeune Corse, qui commence à étonner le monde, ne l'accueille pas avec la chaleur espérée et l'ignore même superbement. Et Bernadotte, qui ne comprend pas cette froideur qui l'entoure, aurait dit à l'un de ses aides de camp « J'ai vu un jeune homme de 26 à 27 ans qui veut avoir l'air d'un homme de 50 et cela ne me dit rien de bon pour la République. » La deuxième rencontre se fait à Oudinet et puis à la Villa Manine de Passariano. Et là, les différences se font jour. Et pour ne pas perdre la face, eh bien, il va refuser de servir à l'armée d'Angleterre, qui, vous le savez, est destinée à partir non pas en Angleterre, c'eût été trop simple, mais l'armée d'Angleterre était destinée à partir vers l'Égypte, parce qu'il fallait couper la route des Indes, qui était le nerf de la guerre de nos amis britanniques. 1798, problème encore entre les deux hommes. Pendant que l'un est parti en Égypte, Bernadotte devient ambassadeur de France à Vienne. Il a dans ses salons un musicien un petit peu en devenir. Oh, le nom ne vous dira rien, il s'appelle Beethoven. Ça ne vous dit rien, évidemment. Mais il a surtout l'outrecuidance de faire ce qui était interdit à l'époque, afficher haut les couleurs tricolores en haut du balcon de l'ambassade. Les Viennois ne l'entendent pas de cette oreille. On le chasse manu militari et il rentre à Paris, fier de son petit coup. Mais c'est là qu'il retrouve Désirée et l'épouse, donc, l'ancienne fiancée de Bonaparte. On sait que l'amourette n'a pas duré longtemps. Il l'épouse à Sceaux, donc, le 17 août. Et pendant que Bonaparte est en train de conquérir l'Égypte puis la Syrie, eh bien, le jeune couple s'installe tranquillement à Paris. Mais Napoléon a un œil sur tout. Il est au Caire et il prend sa belle plume en disant « Je connaissais à peine Bernadotte, mais c'était autre chose que ceux que j'avais refusés auparavant. Et j'ai consenti à vous l'accorder, Désirée, soyez heureuse. » On a l'impression de voir déjà l'empereur qui marie ce qu'il désire. Mais il passe l'éponge et il écrit une seconde lettre « Je ne peux m'en venger, Joseph, qui devient donc son beau-frère, puisque Joseph Bonaparte avait épousé l'autre sœur, Julie Clary. Donc, maintenant, il fait partie de la famille, et j'aurai contre moi tout le monde. Donc, eh bien, c'est une sotte chose que les considérations de famille. » Alors, Bernadotte est obligé de s'éloigner. Quand Napoléon va rentrer, on lui confie des missions, on va dire, secondaires. On l'envoie à Quiberon. Il combat les Anglais. Le 3 juin, il est à Belle-Île. Et pendant que Bonaparte est en train de rentrer et de prendre le pouvoir, lui, qui s'était porté pâle au moment du coup d'État de Brumaire, eh bien, demande une nouvelle affectation. Rennes. Il demande d'aller plus loin. On lui destine la Louisiane, mais il a le mal de mer, et il restera à quai. Il s'oppose au concordat. Il dit non, nous en tant que républicains, on ne peut pas accepter une chose pareille. Donc il demande à ce qu'un complot puisse tranquillement s'installer et que le pouvoir lui revienne. Là, les affaires se gâtent. Que Bonaparte ait passé l'éponge, c'était une chose. Mais qu'il commence à ourdir des complots contre le maître, cela pourrait tourner mal. Pourtant, un événement va le rétablir parfaitement. Et cet événement va faire de Bonaparte l'homme de la Révolution à part entière. Souvenons-nous, il a servi dans les armées du roi. Il a été, je vous le rappelle, l'un des derniers lieutenants à avoir été nommé par Louis XVI Bonaparte. Donc, il n'a pas voté la mort du roi. Lorsqu'il était en 92 et qu'il a vu les horreurs qui ont été commises le 10 août, il s'est dit « je ne serai jamais de cette canaille ». Alors que Bernadotte a donné des gages, il était ministre de la guerre du directoire. Je vous l'ai dit, il était ambassadeur. Alors ce petit freluquet-là, que peut-il ? Mais je vous le disais, un événement va tout changer. Bonaparte est au pouvoir et en 1804, on exécute le duc d'Enghien, le dernier des Condés. Et là, comme l'avait dit très justement Fouché, Napoléon s'est fait de la Révolution. Il a mis les mains dans le sang. Et à ce moment-là, comme par enchantement, Bernadotte revient aux affaires. Il rappelle que l'histoire est née à Valmy. Il se souvient que lui est devenu général en chef avant Bonaparte. Et même s'il sert à Hanovre, lorsque l'Empire est proclamé le 18 mai 1804, le lendemain, la première liste des maréchaux qui est nommée avec les 16 premiers titulaires, qui trouve-t-on ? Bernadotte. Il a également la première Légion d'honneur. Il est aussi du camp de Boulogne, le 16 août. Et au moment du sacre, souvenez-vous du tableau de David, qui voit-on à proximité du cardinal Fesch ? Derrière lui, Eugène, Caulaincourt et Bernadotte. Il fait partie de la famille. Et que Napoléon le veuille ou non, Joséphine, Hortense, Julie, tout cela permet à Bernadotte de rester en odeur de sainteté. Sur le tableau suivant, c'est-à-dire la distribution des aigles en 1804, toujours le 5 décembre, le seul qui se retourne et qui ne regarde pas Napoléon, c'est Bernadotte. Il regarde Berthier. Mais j'allais dire, c'est presque un crime de lèse-majesté. Mais on l'autorise. Napoléon le décrit quand même comme un personnage un peu fourbe, d'une distinction innée, courageux, prudent à la fois, mais quand même, s'il est conciliant l'initiative avec le respect de la discipline, il était né peut-être pour commander, mais sa distinction et sa courtoisie montraient quand même une indécision, une indolence. Il était volubile, incohérent, confiant mais susceptible, prodigue, il était tout autant calculateur, actif que silencieux, logique que méfiant, impavide, économe. Le portrait mérite quand même d'en savoir un davantage. Il est donc nommé en 1804 dans les maréchaux, mais j'allais presque dire un peu par défaut. Il faut que la liste soit complète. Alors il faut faire ses preuves sur le champ de bataille. En 1805, au moment où la campagne est lancée vers Austerlitz, on lui confie le premier corps. Le 29 août, il reprend Wurtzbourg. Il est ensuite à Munich. Mais à Austerlitz, il est un peu en réserve et lorsqu'il envoie 3 de ses régiments soutenir une très belle charge de cavalerie, lui reste 17 mètres derrière. Alors Napoléon ne goûte pas véritablement. Et comme il ne veut pas se fâcher directement avec un républicain pur souche, parce qu'il faut ménager les susceptibilités politiques, il écrit au beau-frère, donc son propre frère à lui, Joseph, en lui disant « Vous avez vu par le bulletin tout ce que j'ai trouvé à Vienne. Je manœuvre aujourd'hui contre l'armée russe. Et dans cette circonstance, j'ai été peu content de Bernadotte. Peut-être sa santé en a-t-elle été sa cause. Son entrée à Munich, à Salzbourg, et la gloire que je lui ai donnée par ses belles missions, sans qu'il ait tiré un coup de fusil, et tout ça comme remerciement, j'espère qu'il réparera cela demain en activant sa marche. » Eh bien non. Bernadotte se porte toujours pâle. Pourquoi ? Parce qu'il a, dans son esprit, voulu concilier l'inconciliable. Vouloir que la République, qui était confiée à un empereur, soit aussi acceptée de l'autre côté du Rhin. Il est politique avant tout. Et c'est en cela que Bernadotte s'oppose à Napoléon. Alors Napoléon a trouvé l'astuce. Il veut être plus républicain que moi ? Je vais le couvrir d'éloges, de prix, de médailles et de titres. Qui est le premier prince nommé avec autant d'éclat ? Ce sera Bernadotte. Il sera prince de Pontecorvo et la distinction lui est donnée le 5 juin 1806 avec une rente de 13 000 francs. Ça calme les ardeurs républicaines. Et monsieur le prince se présentait dans toutes les cours avec son très bel habit. À Schleitz, le 9 octobre 1806, Bernadotte a enfin la possibilité de mettre définitivement un terme à la résistance des Prussiens. Et en particulier, on est cinq jours plus tard, vous le savez, il y aura Iéna à Auerstadt. Mais, en n'intervenant pas dans la soirée, il laisse le soin à l'adversaire de se retirer en bon ordre et en laissant ensuite tout le mauvais travail à faire à Davout, qui va s'ingénier à Auerstadt à faire des miracles. Le 7 novembre, en revanche, à Lübeck, il manque un coup formidable. Il a devant lui un feldmarschall prussien dont on ne connaît pas véritablement l'importance, mais qui se révélera ensuite très, très terrible. Non, un Prussien, c'est Blücher. Il a la possibilité de le faire prisonnier dans la ville. Il est retranché avec 25 000 hommes et Bernadotte ne pousse pas assez loin et Lübeck ne sera pas prise. Il faudra cette fois-ci l'intervention d'un autre général que vous connaissez, le général Lassalle, fameux général des Hussards. 3 semaines après la paix de Tilsit, de nouveaux combats. En revanche, là, il se bat avec beaucoup de bravoure. Il est grièvement blessé au cou lors de la prise de Spandau. Et par reconnaissance, enfin, Napoléon le nomme gouverneur des villes hanséatiques. Là, il fera quelques opérations un peu sourdes, qui vont lui permettre de se concilier la population ambiante. À la campagne suivante, en 1807, après avoir de son propre chef cherché à négocier avec les Suédois une paix séparée, eh bien, il prend la tête du 9e corps cette fois-ci, notamment composé de contingents venus de Saxe et du Grand-Duché de Varsovie. Des Polonais, des Allemands et, je vous l'ai dit, des Suédois. Et tout commence là. Alors que l'opération aurait dû en être qu'un élément parmi d'autres, Napoléon, qui ne goûte pas véritablement son manque d'enthousiasme, l'envoie à Wagram, il ne sert à rien, et lui dit « Mon intention n'est pas de laisser plus longtemps le commandement dans les mains de ce prince de Pontecorvo, qui ne cesse de correspondre avec les intrigants de Paris, et qui est un homme auquel je ne puis me fier. Vous lui notifierez donc mes intentions sur le troisième point que je veux lui donner, c'est qu'il se rende à l'armée, ou alors qu'il prenne les eaux. » Autant dire qu'il parte à Plombières. La cure lui fera du bien, et cette fois-ci, il ne servira plus dans de mauvaises conditions. Arrive le changement de sa vie. Et j'allais presque dire le troisième changement de sa vie. Le premier, c'est la rencontre avec Désiré. Le second, c'est d'être devenu maréchal. Cette fois, son destin va véritablement changer. Il reçoit, en plein marasme, une personnalité venue de Suède qui lui propose de devenir prince héritier de ce royaume du Nord. Imaginez, pour un palois habitué à la chaleur, c'est comme un Corse venant d'Ajaccio, à qui on aurait demandé un jour de devenir empereur de tout l'Empire européen. Chose saugrenue. Il accepte. Il accepte parce qu'il a eu un fils prénommé Oscar avec Désiré qui se rêve prince du nord de l'Europe. Il s'appelle Oscar. À l'époque de Napoléon, tous les poèmes lus par la bonne société étaient véritablement intéressants parce que il lisait les poèmes d'Ossian. Et le personnage principal d'Ossian, de ce barde qu'on avait finalement inventé, on le verra ça ensuite, de ce barde du nord, le personnage principal s'appelait Oscar. Donc le petit enfant, qui avait à peine 11 ans, se sentait investi d'une grande mission et avait dit à son père « Mais pourquoi, papa, ne feriez-vous pas le bonheur de ce brave peuple ?» Aussi, l'ancien empereur, qui s'imaginait donc à la place de Napoléon, devient-il donc seulement roi de Suède, et cet ancien maréchal de l'Empire s'affirme comme l'homme providentiel. Mais là, cette fois, la rupture est consommée. Napoléon, dans un premier temps, reçoit Bernadotte et lui avoue « Je vous laisse maître de votre décision, laissez aller les choses, j'aime mieux vous voir là que tout autre. » Et lorsque Bernadotte s'installe, il écrit « Je ne lui vois aucun talent pour régner. Il est bon militaire, voilà tout. Au reste, je suis enchanté d'en être quitte et je ne demandais pas mieux que de le voir éloigné de France. C'est un de ces anciens jacobins avec la tête à l'envers, comme ils l'ont tous. » Et ce n'est pas ainsi que l'on se soutient sur un trône. Là, Napoléon n'a pas eu véritablement de préscience. La rupture est consommée, et si un autre que Bernadotte eût été prince royal de Suède, peut-être la conduite de Napoléon envers ce pays eût été différente. Bernadotte, en signe d'intégration, va faire tous les efforts. Rappelez-vous, il était plus républicain que les républicains. Eh bien, il accepte, alors qu'il faisait partie, quand même, de la grande loge nationale, en tant que franc-maçon, il accepte de se convertir à la religion luthérienne devant l'officiant d'Uppsale, Jacob Axelsson Simbold. Et là, tout le monde est stupéfait. Un événement contribue aussi à retarder sa popularité. Sa femme, Désirée, marseillaise, je vous l'ai dit, elle ne voit pas d'un très bon œil de s'installer dans ce froid palais de Stockholm. Et il faudra seulement le mariage de son fils Oscar bien plus tard pour comprendre que si une femme venait à régner sur le cœur des Suédois, c'était surtout à elle, désirée de le faire, et non pas à sa belle-fille. Vous voyez comme quoi, parfois, la politique tient à peu de choses. Désirée, maintenant à ses côtés, Bernadotte va donc choisir le mauvais camp. Sa ligne de conduite ne changera pas. Mais cette attitude, qui lui sera souvent reprochée par une partie des Français, ne sera-t-elle pas finalement celle des autres maréchaux à Fontainebleau, qui tous, les uns après les autres, même Berthier, vont finalement décrocher? Bien sûr, ils ne pouvaient pas aller si loin. Battre Oudinot à Grosbeeren le 23 août 1813, battre Ney à Denwitz le 6 septembre suivant, personne ne lui intimait l'ordre de le faire, et surtout, combattre aux côtés d'Alexandre, de Frédéric Guillaume, et même des Anglais, ça, c'était peut-être aller trop loin. Son attitude ambiguë, d'ailleurs, va dans les deux camps, même chez les Corses de l'autre côté. Relisons ensemble Pozzo di Borg, qui dit dans un rapport « Pendant plus d'une heure, on perdait le prince de vue. Il avait disparu au milieu d'un tourbillon de poussière pour aller voir les dernières troupes suédoises qui suivaient. Les généraux, les officiaux expédiés par le général Blücher, son chef d'état-major même, le comte Löwenstein, le cherchait en vain. La bataille fut gagnée sans l'intervention du général en chef et l'ennemi, préservé d'une ruine totale par les retards apportés dans l'exécution des ordres que le premier avait donné lui-même, en fut quitte pour partir en bon ordre. » Alors, il sert ou il dessert? Il combat les Français ou il leur laisse la vie sauve? Difficile de se prononcer. Le tsar pense à lui lorsque le trône devient vacant après le départ de Napoléon pour l'île d'Elbe. Bernadotte n'en veut pas. Il sait qu'il a quand même trahi. Et donc il rentre dans ses états après avoir fait une courte halte à Paris le 12 avril, soit 6 jours après l'abdication, et voyant que les Parisiens l'accueillent avec les huées, il repart donc après une courte halte à Mortefontaine. En juillet 1821, et je vais terminer là-dessus, lorsqu'il apprend la mort de Napoléon, il avoue devant de nombreux témoins interloqués que l'empereur demeure à ses yeux le plus grand capitaine qui a paru sur terre depuis Jules César. Il regrette sans doute quelque peu nostalgique cette période douloureuse mais glorieuse de sa vie. Le 22 mai puis le 19 juin 1823, 2 ans après, il assiste au mariage de son fils Oscar avec justement la belle-fille que ne voulait pas désirer et qui s'appelle Joséphine de Leuchtenberg. Qui est-elle, cette Joséphine de Leuchtenberg? Vous l'aurez deviné par son prénom. C'était la petite fille de Joséphine, donc la fille d'Eugène. La boucle, d'une certaine manière, était bouclée. Mais si l'épopée de Bernadotte trouve son épilogue, elle le trouve bien sûr dans ce couronnement dont je vous ai parlé au début, avec ce fameux tatouage, mais elle se trouve aussi dans cette mort glorieuse qui se fait quand même de manière apaisée. Le 8 mars 1844, entouré des siens, veillé par le très fidèle comte Brahe, il est inhumé dans la nécropole royale de l'île de Riddarholmen et il sera rejoint, vous le savez sans doute, 16 années plus tard par Désiré. Et aujourd'hui, les actuels rois de Suède descendent toujours de Bernadotte. Si il conserve un certain prestige aux yeux des Suédois, et si son nom, bien que gravé sur le pilier nord de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, n'a toujours pas été donné à un boulevard parisien, et on comprend pourquoi, il faut se souvenir qu'en 1942, alors que la France est dans un marasme terrible, le film qui reçoit le plus de spectateurs à ce moment-là, en 1942, c'est un certain film de Sacha Guitry, Le destin fabuleux de Désiré Clary. Le film est un film extraordinaire. Napoléon n'est pas joué par un comédien, mais par deux. Jean-Loup Barrault interprète Bonaparte, et en plein milieu du film, Sacha Guitry fait son apparition en disant avec sa voix inimitable « Cher Jean-Louis Barrault, acceptez que le maître prenne votre place. » Et à ce moment-là, le film s'interrompt, et tout le générique, un peu comme dans une série Netflix, tout le générique défile en plein milieu du film et on voit apparaître les comédiens les uns après les autres, Gaby Morlaix, le rôle titre, puis tous les comédiens, même les techniciens, les électriciens, et ensuite Sacha Guitry, jouant le rôle de Napoléon, se met dans l'uniforme et interprète la deuxième partie de ce film qui met en valeur évidemment Désiré Clary et donc forcément Bernadotte. En 1954, 12 ans après, savez-vous quel est le film qui réunit sur le même écran Gene Simmons et Marlon Brando? Je vois les yeux des dames qui commencent à s'ouvrir. Ça n'est pas Napoléon, même si Marlon Brando joue le rôle, évidemment, du jeune Corse. Le titre du film s'intitule « Désiré ». Et si ce film a un tel succès, c'est parce que, justement, Bernadotte est le personnage qui permet, justement, à Marlon Brando de briller. L'acteur anglais, d'ailleurs, qui interprète le rôle est Michael Rennie. Vous le voyez, mesdames et messieurs, Bernadotte aura donc finalement gagné, non, bien sûr, l'éternelle postérité, mais celle peut-être plus enviable de fondateur de dynastie. Aujourd'hui encore, lorsque le visiteur qui découvre le palais royal de Stockholm sent toute l'influence de l'ancien maréchal qui s'est perpétué à travers les époques, il le voit encore là. Et près de 220 ans après son accession au trône, le palois marque encore les esprits, ce que ses héritiers et à travers eux l'ensemble des Suédois entretiennent avec un profond et vénérable respect. Je vous remercie de votre attention.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.